20h-22h, Émilie Mazoyer sur Europe 1.
Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur Europe 1, c'est Musique. Un épisode un peu spécial de Musique puisque c'est le dernier de la saison et c'est également celui qui est consacré intégralement au groupe Indochine qui fête ses 40 ans, hashtag Indo40. Je vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant. Tout à l'heure à 21h, grand concert, Indochine accompagné d'un quatuor à cordes et puis une interview de Nicolas Sirkis. Et dans cette première heure, un documentaire sonore exceptionnel avec des archives qui pour certaines n'ont simplement jamais été diffusées. C'est un documentaire produit et réalisé par Sébastien Guidis et Julien Tarot et ça s'appelle Indochine, l'aventure qui n'en finira pas.
Ce soir, une fée.
Il lui avait téléphoné. Elle l'avait reconnu dès la voix. Bonjour. C'est moi. Sa voix tremblait tout à coup.
Personne n'a fait la liaison avec Marguerite Duras.
Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saigon.
C'est très musical, Marguerite Duras. Son écriture, son rapport à la sensualité, au sexe. Dans chaque mot, il y a une sorte de petite mélodie.
Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
On est en contemplation vraiment devant ses histoires, son côté aussi de la décadence d'un empire français, aussi ça m'intéressait beaucoup.
Nos maîtres sont morts, et nous sommes seuls.
S'imaginer ces vieux colonialistes qui buvaient de l'alcool alors que tout s'écroulait autour d'eux, comme sur le Titanic, c'est assez intéressant. C'est elle qui m'a guidé un petit peu dans les premières lectures. Quand j'ai voulu trouver un nom pour le groupe, je trouvais que c'était bien.
C'est une aventurière, ma mère. Elle fonçait comme ça dans les aventures.
Indochine, l'aventure qui n'en finira pas. Émilie Mazoyer.
Barbier de nuit sur Europe 1 en 1983. Christian Barbier reçoit Nicolas Sirkis et Dominique Nicolas, tout fiers de présenter le premier album d'Indochine.
Indochine. Et alors aujourd'hui, eh bien, ils nous reviennent avec un album. Alors je dois dire que la pochette est très bande dessinée. D'ailleurs, je crois que vous êtes très inspiré un petit peu par la BD.
Oui, beaucoup. Enfin, tous les titres sont tirés, on a fait ça sur des chansons qui ont rapport avec la BD.
Mais vous dessinez avant de...
Non, on a lu les BD. Surtout Nicolas, surtout il s'occupe des textes. Et ouais. On a fait ça sur une chanson sur Bob Moran.
Et alors vous, Dominique, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je fais des musiques, moi.
Vous êtes compositeur. Ouais,
oui. Il faut dire que ces musiques, ça inspire justement sur la bande dessinée, sur l'aventure, donc tout le concept de cet album.
Vous êtes combien dans le groupe? 4, hein?
On est 4, oui. Donc il y a Dominique qui fait toutes les musiques, il y a moi qui fais les textes, il y a Stéphane, mon frère, qui fait les synthétiques. Les séquenceurs, il y a Dimitri au saxophone.
Voilà, donc moyenne d'âge, vous êtes
20 ans, 23-20 ans. Oui,
tout désagréable ça. Tout ça, enfin. Vous voyez régulièrement ou bien vous travaillez chacun de votre côté, puis après vous faites une synthèse au cours
ben, c'est comme ça, oui. Dominique, lui, reste tout le temps chez lui à composer tous les morceaux, à trouver des sons, etc., avec son magnétophone. Et puis bon, une fois qu'il a trouvé un morceau, moi je viens et puis je mets les paroles dessus, on fait le morceau en maquette.
Ouais, c'est très collectif quoi.
Ouais, très collectif et puis dès que le morceau est concret et bien mis en place, il y a Stéphane et Dimitri qui interviennent et qui mettent dessus leurs instruments.
Pour arriver à redonner finalement sur une scène la véritable sonorité de ce que nous entendons dans un disque, je crois qu'il va falloir que vous ouvriez le bureau d'embauche là un petit peu.
Ben, peut-être, enfin d'ici 6 mois je pense.
Ouais,
pour l'instant on se débrouille comme ça, je veux dire ça va, puisque le fait de recruter des gens, il faut tomber sur des gens bien, parce que sinon on passe avec des requins et là c'est pas du tout intéressant au niveau du feeling et l'énergie qu'on peut dégager sur scène. Donc pour l'instant on se débrouille bien comme ça, mais si évidemment on fait une carrière, je veux dire, longue haleine.
Vous y pensez à la carrière?
Mais pas vraiment, on n'a pas trop de temps d'y penser quoi, mais...
Enfin vous aimeriez bien quoi.
Voilà.
Tu sortiras, tu jureras tôt de l'aventure solitaire, pas mort.
mise en scène d'un show, maintenant, il y a une certaine escalade. Je veux dire, on en rajoute. C'est un vrai grand spectacle. Est-ce que ces choses-là, vous y êtes sensible?
On y est sensible et on aimerait bien avoir un gros spectacle. Mais bon, là, il faut beaucoup de sous, je veux dire. Il faut beaucoup d'argent pour présenter des... Ce qui nous intéresserait, ça fait des montages sonores, des images... de projeter des diapositives au niveau des éclairages. Pour l'instant, on est un peu tributaire des organisations qui nous font passer. Mmh. Mais si je pense que...
Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ces organisations, d'une part, et de ce métier, en règle générale, puisque vous êtes tout neuf et que vous arrivez là avec les yeux grands ouverts?
Les organisations, il y a encore des progrès à faire, je crois.
Surtout dans le rock. Ils sont comme nous, ils débutent, je crois, surtout dans le rock, au niveau du son et au niveau du... Il y a beaucoup de petits sonorisateurs qui veulent faire marcher le rock en France, et bon, apparemment, ils n'y comprennent rien, quoi. Mmh. Bon, mais nous aussi, je veux dire, on arrive comme ça sur la scène, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire.
Bon, ils ont coupé la sono. Au revoir.
Excusez-nous, on nous a débranché la boîte à rythme, donc on ne peut pas rejouer. Bonne soirée, quand même.
Printemps Bourges 1983. Vous aussi, vous trouvez que ça se termine un peu sèchement, ce concert? Allez, on rembobine cette prestation, enregistrée par Europe 1 et jamais diffusée en 38 ans. Oh, ça va, on s'amuse. Allez, cette fois, on vous la met vraiment. Indochine, la détresse du Mékong, Bourges 1983.
La musique est trop sérieuse.
Début d'Indochine est déjà la grosse pression. Nicolas Sirkis déclare à propos du premier album « Voilà, c'est notre dernière chance de faire un disque. Si celui-ci ne marche pas, on sera jeté par notre maison de disques et on abandonnera. » Radical. La solution, comme souvent en musique, se trouve en Angleterre.
Vous y allez de temps en temps en Angleterre, voir ce qui se passe?
Ben, on est allé mixer l'album déjà, je veux dire, et là c'est une grande expérience au niveau professionnel, au niveau des sons et au niveau des gens, quoi.
Vous avez l'impression qu'ici en France on est un petit peu en retard de ce côté-là?
Pas en retard au niveau du matériel. Déjà, nous, quand on est allé, on s'était dit bon, c'est snob d'aller mixer en Angleterre. Bon, en France il y a d'aussi bons studios, mais en fait c'est pas les studios, c'est le même matériel, c'est les gens, je veux dire. Donc là, on a été mixé au studio Red Boss à Londres qui a fait plein de choses. Bon, des gens, je veux dire, déjà on sait de quoi ils parlent et on peut leur faire confiance à plein de coups, quoi.
Pour notre génération, Indochine, il y a quelque chose un peu de bancal dans l'histoire d'Indochine.
Le seul, l'unique, Marc Toesca. Top 50, top live sur Europe 1.
Musicalement, c'est très fragile et Nicolas lui-même le reconnaît. À l'époque, il ne savait pas trop bien chanter. Tout n'est pas parfaitement juste et il y avait un peu cette fragilité dans ce groupe qui arrivait quasiment de nulle part. Si on se remet dans l'époque, 80-82, les maisons de disques signaient à tour de bras les nouveaux groupes. Et donc Indochine est arrivé dans cette mouvance. Mais il y avait cette particularité que le groupe était déjà plus influencé par la pop anglaise de l'époque. « c'était un petit peu la version française de ces groupes synthé-pop. On appelait ça aussi la New Wave. Ce qu'on retiendra à la fin de la décennie 80, c'est que 3 d'Indochine, c'est un petit peu l'armoire à tube, l'album de rock le plus vendu de la décennie. Et cet album a touché un public vraiment très 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 large. Et ce public-là, on va le retrouver au Zénith en 1986, qui a une véritable explosion en Indochine. Indochine atteint un niveau vraiment très très haut, à la fois dans le showbiz, dans les ventes de disques, et aussi dans le cœur du public.
Indochine, l'aventure qui n'en finira pas. Émilie Mazoyer.
1986. Les chiffres de la tournée 3 d'Indochine ont de quoi faire briller les yeux des producteurs les plus blasés. 150 000 spectateurs, 55 concerts et 350 000 exemplaires vendus de l'album live Indochine au Zénith. Tes yeux noirs fait déjà partie des incontournables de la setlist. Clip inoubliable avec Elena Noguera qui n'est pas que belle, mais aussi généreuse quand elle partage ses souvenirs.
Je devais avoir 15 ans à l'époque. Nous sommes allés les retrouver avec d'autres groupies dans les loges. Ils faisaient leur vie, puis nous, on essayait de les voir, d'être proches d'eux. Et puis, on est arrivés vers la sortie des artistes. Ils sont rentrés dans une grande berline noire et on les a regardés partir avec un peu la peine au cœur. Et puis là, à un moment donné, la voiture s'arrête. Nicolas sort de la voiture et court vers moi. Il me dit « Mais tu ressembles à Yuko Tsuno, une petite héroïne de bande dessinée avec un carré comme ça et une petite tête japonaise. » Il m'a demandé ce que je faisais la semaine prochaine et si je voulais tourner dans leur clip. Et donc, je me suis retrouvée sur le tournage réalisé par Serge Gainsbourg auprès de mon groupe fétiche Indochine.
Après l'apogée du phénomène, Indochine est de retour au Zénith. Comme eux, leur public, qui s'identifiait à leur look autant qu'au slogan facile de leur chanson, Troisième sexe, trois nuits par semaine, l'aventurier, a vieilli. Nicolas, le chanteur, n'a pas peur de son infidélité.
Fidèle, je pense qu'il y a toujours un public fidèle, parce que je pense pas que ça peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. On faisait pas du tout de spéculation, savoir si on allait retrouver un autre public et tout. Je pense que c'est les mêmes gens qui sont venus nous voir l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, et plus d'autres peut-être qui veulent voir encore le phénomène, etc. L'inquiétude, c'est en fait sur la longueur du show, parce qu'on est quand même 2h10 sur scène. C'est très physique, très dur. Je pense pas qu'il y aurait une nostalgie, puisque là, c'est vraiment un nouveau concert, c'est presque un nouveau groupe, c'est presque un nouveau show. Enfin, c'est tout est nouveau, quoi. Donc, ça sera pour nous une nouvelle salle, de toute façon.
Réponse jusqu'à samedi à Paris, puis en tournée en province, jusqu'au 2 avril au printemps de Bourges. On saura alors si le groupe a enfanté une nouvelle génération d'anciens d'Indochine.
Il y a 2 ans, on était venus à Bourges, il y avait les mêmes affiches sur les murs, les mêmes. Tu vois Jacques Chirac d'un côté en écrivant « La France, confiance !» Jacques Chirac et un autre barjou encore, Jean-Marie. Ils sont tous là sur le mur.
Thank you. et 1 et 3 et 4 au placard. Un 5 à 7 en haleine pour mémoire. Ouah ouah ouah, oh là là. Et tché tché tché, Guevara et Guevara.
Goûtez-moi ça. En 1990, sur Europe 1, Jean-Luc Delarue accueille Stéphane Tsirkis. Ça chante pas mal, sur les tsars, avec une invitée surprise, vraiment surprise.
Nous recevons aujourd'hui Stéphane Tsirkis du groupe Indochine. C'est le deuxième frère que nous recevons après avoir reçu déjà les deux une autre fois dans une autre émission sur Europe 1. Enfin bref, on avance profondément, consciencieusement dans cette famille Tsirkis. Et aujourd'hui, nous franchissons un pas supplémentaire avec Madame Indochine. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour madame. Merci d'être avec nous cet après-midi.
C'est ma maman.
Oui.
J'aimerais que vous me parliez de Stéphane, de ses particularités par rapport à Nicolas.
De ses particularités.
Oui. S'il vous plaît.
Alors comme il disait tout à l'heure, c'est un jumeau mais un faux jumeau. Ils ont quand même beaucoup de ressemblances physiques et ce qui fait qu'ils ont quand même eu tous les problèmes inhérents aux jumeaux. Stéphane était peut-être enfant plus sérieux, plus renfermé, plus raisonnable que Nicolas.
Stéphane,
c'est vrai, absolument vrai, elle a tout très,
oui.
Très bien.
Oui, c'est vrai Stéphane. C'est mais bien, alors après, pas. Au moment de l'adolescence, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu renversé et que celui qui était plus raisonnable bébé a commencé à prendre un petit peu de le devenir un peu moins et que celui qui était un petit peu foufou enfant a commencé un petit peu à devenir plus... Voilà.
À part ça, vous les voyez régulièrement. Est-ce que vous êtes une grande fan? Quel est votre morceau préféré?
J'aimais beaucoup cette mille danses.
Stéphane?
Oui, non, mais c'est vrai que ma mère m'étonne parce qu'elle a toujours... enfin, elle dit qu'elle n'est pas très fan, mais elle est fan depuis le début. Même au début, quand on était dans d'autres groupes, elle nous suivait, elle voulait savoir exactement ce qu'on faisait comme morceau. Et
non, mais ce que je veux dire fan, j'ai suivi, mais j'ai...
Oui, non, mais...
Voilà, j'ai aimé la chevauchée des champs de blé, aussi celle minance, K.O. Bang, dans le temps. K.O. Bang.
Ouais, quand même, par K.O.
Bang. Ah ben, je les avais écoutés parce que quand même, au départ, ils ont travaillé chez moi. Même quand Stéphane ne faisait pas encore partie du groupe, Nicolas préparait à la maison et Stéphane lui donnait toujours un petit coup de main. Donc les morceaux, moi, je les connaissais avant. On les a plus ou moins enregistrés sur cassette à la maison. Je les ai entendus, je les connaissais avant tout le monde, moi.
Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Je vous en prie.
Salut maman, à plus tard.
Salut mon fils, à plus tard.
La petite fille est une guerrière, elle joue à ce qu'il ne faut pas faire, ça s'appelle K.O. Bang.
Dédicace à vous, Madame Indochine. Nous aussi on adore K.O. Bang, version Printemps de Bourges, 1984.
La petite fille est une guerrière, elle joue à ce qu'il ne faut pas faire. Contre les dragons, elle bat les yeux fermés.
Indochine, l'aventure qui n'en finira pas. C'est dans Musique sur Europe 1. Indochine, l'aventure qui n'en finira pas.
Je suis resté très attaché à Indochine, à Nicolas. D'ailleurs, lorsqu'il a fait les premières maquettes de son album Dans la Lune, il est venu dans un studio que j'avais monté à Puteaux. Il avait fait toutes les bases de cet album et j'avais trouvé cet album très audacieux, très personnel, bien sûr. C'est un album de reprise. Quand il reprend des chansons de Tears for Fears, d'Elie Jacquenot, de George Harrison, des Stones, de Gérard Manset aussi, même du Tom Tom Club. Je trouvais que cet album était un peu le reflet de notre génération.
Vinyle fraise de François Jouffa. Dites donc, Nicolas Sirkis, Gérard Manset, va falloir se mettre d'accord sur les anecdotes, messieurs.
Nicolas Sirkis, âme damnée du groupe Indochine. T'aimes bien que je dise âme damnée, hein ?
Oui, ça me plaît bien.
Voilà. Et Gérard Manset, bonjour.
Bonjour.
C'est un honneur, c'est un honneur. Gérard Manset a toujours fait partie, avec Indochine et pour moi-même, d'une de nos références. C'est le mot lourd, mais française, entre Dutronc, Gainsbourg et Manset. Je me souviens, moi, par exemple, j'avais 16 ans, j'étais dans une gare, je faisais du stop, je sais pas quoi, on était sur la route un été, il y avait un jukebox et il y avait Gérard Manset.
Ouais. Attends, je te coupe, c'est fabuleux quand même, non?
Ouais, Jean Solitaire était... Moi, je m'en rappelais pas, mais c'était devenu effectivement... C'était un tube. Et après, on se le remettait sans arrêt, on était avec des copines et tout, et on aimait beaucoup cette chanson. Et après, bon, je l'ai connu par ses textes, par ses albums, mais connu, c'est-à-dire apprécié. C'est Yves Bigot qui m'a dit, mais... J'avais envie de reprendre une chanson de Manset. Il me dit, mais pourquoi tu ne prends pas Entrer dans le rêve? Je dis, mais parce qu'il paraît-il, il l'a écrite sur vous.
Alors, c'est Bigot?
Ouais, oui, un entremetteur.
C'est Bigot qui t'a dit ça?
Ouais.
Ramenez le drap sur vos yeux et entrez dans le rêve. Reprendre la vie des autres où on l'a laissée quand le jour s'achève. Voir les couleurs, voir les formes. Enfin marcher pendant que les autres dorment. Voir les couleurs, voir les formes. Les villes sont des villes bordées de nuit, peuplées d'animaux qui marchent sans bruit, toujours dans votre dos. La peur qui vous suit, toujours dans votre dos.
Quand j'ai les premières phrases me sont venues, j'ai dû vouloir canaliser le titre dans une dynamique précise. Alors je pensais à la caisse claire, comment je pourrais dire, succincte et basique.
Ouais.
Donc j'ai dû citer, il est comme référence Indochine.
Ça, ouais,
voilà,
c'est ça
que je veux dire.
Cette ligne claire.
Voilà. Exactement. En même temps, cette ligne, comme il dit, de la caisse claire, je l'ai toujours eue, bien sûr. À l'origine, c'était twist. Bon.
Mais c'est vrai parce que nous, on a commencé dans notre chambre, chez nous, avec une boîte à rythme. Et bon, il y avait trois positions, la position rock, twist, la position bossa nova et machin.
Exactement.
Et donc, boum, on appuyait sur la position rock et c'était tatatoum, tatatoum.
Mais que plus aucun batteur n'était capable de jouer.
Non.
C'est paradoxal.
Et on a eu du mal à retrouver des batteurs parce qu'ils étaient partis dans une lignée des années 70 où ça tapait sur tous les
fils. Et puis un batteur se trouvait tout à fait dévalorisé qu'on l'appelle pour venir faire une séance et faire le pied, la caisse.
Oui, exact.
Donc c'était nos futurs, sauf avec l'émergence de la caisse claire.
Exactement, ouais.
Top Live de Marc Toesca en 1995. Dominique et Dimitri sont partis. Les effectifs d'Indochine ont changé un petit peu. Mais Nicolas et Stéphane tiennent la barre. Et les héros restent les mêmes. Merci à Jean-Pierre Cornil d'avoir retrouvé dans son grenier breton cette archive inestimable.
Nothing we keep together. Oh, we can be there forever and ever. We'll be right back. nothing. Nothing we keep together. How we can be heroes just for one day.
Stéphane Sirkis est mort le 27 février 1999. Il avait 39 ans. Il laisse une fille, Lou, elle aussi musicienne. 18 ans après sa mort, Nicolas Sirkis et Nikos Aliagas se recueillent.
Avec Nicolas Sirkis, ça y est, on descend du taxi. Nous sommes rue Georges Bizet, devant l'église Saint-Étienne.
Elle est magnifique.
Vous avez un côté assez prêtre, tout en noir, comme
ça.
Super.
Et bah, et vous, alors?
Et moi, on dirait.
Deux corbeaux. Non, non, mais oui.
Les deux corbeaux arrivent dans l'église. Vous croyez en Dieu, Nicolas Sirkis?
Alors, ça, c'est un vaste débat qui n'est pas très opportun de dire ça ici.
Dans une église.
Dans une église, mais
pourquoi pas?
Oui. J'ai une chose que je n'ai jamais dit à la presse ni aux médias, c'est qu'effectivement, pendant bonne dizaine d'années, j'allais mettre un cierge pratiquement toutes les semaines ou tous les jours pour demander de l'aide par rapport à mon frère. D'accord.
Quand il est parti ou avant?
Avant, quand il était malade. Ouais. Pour que ça aille mieux, donc je priais. Oui, effectivement, j'ai cru en quelqu'un qui allait pouvoir m'aider. C'est une église qui était rue Saint-Honoré. Et j'ai arrêté du jour au lendemain où il est mort.
Vous pensez que l'âme disparaît ou qu'il existe quelque chose?
Moi, je respecte beaucoup toutes les religions du monde à partir du moment où elles respectent toutes les autres, où elles respectent tous les gens. Voilà.
Ce soir, je ne donne pas mon âme au diable. Ce soir viendra un marchand de sable. Je sais que je suis en progrès. Je suis sans regret. Je resterai toute seule dans ma chambre à attendre qu'on veuille bien me prendre. Je sais que je n'en reviendrai, on ne sait jamais.
Quand vous montez sur scène, forcément, vous pensez à lui, non?
Oui, mais surtout que sa fille sera avec nous. Donc ça sera un moment et elle jouera sans doute avec nous en première partie.
C'est chouette, hein?
Ah ouais, mais c'est... Ouais, elle a repris la suite.
Après avoir été dans la Lune en 92, après avoir demandé à la Lune 10 ans plus tard, c'est une bonne étoile qui brille au-dessus de la tête de Nicolas Sirkis. En 2008, ses rêves les plus fous sont en passe de se réaliser. Stade de France en vue, chez Marc-Olivier Fogiel.
Indochine au Stade de France est un rêve qui devient réalité pour vos fans. Être le premier groupe francophone à se produire au Stade de France. C'est une forme quoi, de consécration? Vous le vivez comme ça ou vous dites bon non, c'est normal finalement, puisqu'Indochine c'est quand même tellement énorme, on va entendre Indochine dans un instant, c'est bien normal qu'on fasse le Stade de France nous aussi?
Non, ni l'un ni l'autre. Je trouve qu'on a un public incroyable qui fait que nos concerts sont des sortes de communions énormes. Et ce public nous suit envers et contre tout. C'est vrai qu'il y a trois générations. Aujourd'hui, il y a la génération des années 80, la génération des années 90. On a des gens qui ont 14, 15 ans, qui nous découvrent, qui nous écrivent, etc. et qui découvrent d'autres albums.
Il y a eu l'explosion et puis après, il y a eu quand même aussi d'abord la traversée du désert. Vous êtes fait virer, vous avez dit, par les boys bands.
Oui, comme des vieilles serpillères. Enfin, la même maison de disques aujourd'hui, mais c'est pas les mêmes gens qui étaient en place. Mais c'est aussi intéressant de voir l'évolution, de voir l'évolution culturelle, entre guillemets, de la musique en France.
Comment est-ce qu'on remplit un Stade de France alors qu'on n'est pas en train de donner 50 interviews par jour, qu'on joue pas tous les jeux du système, même si on crache pas dessus? Il y a une autre façon d'aller chercher le public.
Ouais, en étant effectivement, les gens se rendent compte que ce groupe a une dignité, une sincérité. C'est vrai que on se prostitue pas à tous les étages, même si on a signé un pacte avec le diable. Mmh. On le maîtrise. Parce que, à un moment donné, il faut savoir qu'on est quand même qu'un produit et que, mais ouais. À un moment donné où on arrive à maîtriser et ce public nous donne le pouvoir de faire un prix des places digne et décent et de jouer 2h30, pas 40 minutes. Donc, à un moment donné, il te récompense aussi, quoi.
Ça, c'est le fils d'immigré. Il faut que les gens en aient.
Il faut la première fois qu'on me dise ça. Oui. Ouais. Mon père est né en Russie. Ma mère est née à Marrakech. Hein? Et on est tous des fils d'immigrés et on est, je pense, tolérant.
2010, concert caritatif pour Haïti au Bataclan. Comme d'habitude avec Indochine, la communion avec le public est indéniable, la bonne cause en plus. Sur la petite scène, en acoustique, des musiciens qui viennent de retourner le Stade de France. Oli de Satt, Boris Jardel et Nicolas Sirkis.
On va faire un peu de blues. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Put me to the test. Sing your cheese. We need to confess. I will deliver. You know I am forgiver. So. Reach out, touch your face. Reach out to touch your face. Someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Touch your face. Reach out to touch your face.
retouch, touch your face. Reach out and touch your face.
Merci beaucoup, Bataclan. Bravo à vous. Merci, ça. Bon concert. Merci à tous.
Indochine. En concert au Bataclan, c'était cet après-midi, dimanche pour Haïti, un concert tout à fait exceptionnel. Exceptionnel également la performance d'Indochine que vous venez d'écouter à l'instant, parce que mine de rien, ils sont habitués à se produire avec énormément de matériel, énormément de sons, alors que là, ils étaient en formule acoustique, simplement à trois, et en plus prenant le risque d'interpréter comme ça un classique de Depeche Mode. C'est une démarche assez originale.
On ne peut pas se permettre de vivre sur un acquis, même si nous, on a une bénédiction des dieux qui est le fait que cet acquis est extraordinaire. Ça serait trop facile. On a cette chance-là d'être un vieux groupe, mais avec un jeune public donc qui attend un nouvel album comme si c'était un jeune groupe. Donc on redémarre vraiment de zéro à chaque fois.
Nicolas Sirkis, discret sur la politique, mais constant dans ses engagements, répond sans détour à Patrick Cohen et à moi-même dans la matinale d'Europe 1 en 2017. Même pas peur du froid national sur le petit piano d'un été français.
Plusieurs formules qui claquent et qui accrochent l'oreille, Nicolas Sirkis. Ouais. Froid national.
Ouais. Froid national, oui.
Belle trouvaille, ça. Hein.
Ah, c'est gentil, merci.
Bah, eux qui voulaient changer de nom, c'est pas mal.
Pays infernal et compagnie. Ouais,
pays
ouais.
Infer- qui rime avec pays infernal. Et puis, le vendredi noir, c'est évidemment le 13 novembre. Vous avez fait un peu de bruit dans les colonnes du Parisien en déclarant que vous ne jouerez plus jamais au Bataclan.
Oui, c'est assez dommage parce que c'est un peu, voilà, ça devient un titre comme ça, un peu notre motif. Oui, moi j'y ai joué deux, trois fois au Bataclan. Et je me sens pas du tout. On est à rejouer dans cette salle après ce qui s'est passé.
Et vous n'irez pas non plus voir un concert là-bas?
Non plus. Non plus. Alors après, c'est moi, je sais, j'ai aucune légitimité à le dire, sauf mon opinion et je l'assume parce que je suis pas en adéquation avec ça. Je trouve que c'est un peu délicat. C'est un lieu de respect,
de mémoire.
Alors évidemment, les générations se suivent, se ressemblent ou pas, mais vous parlez toujours à la jeunesse. C'est important pour vous de leur parler à eux.
Mais je sais pas si moi je parle, je sais pas ça, j'arrive pas, je m'adresse pas à un public. Je pense que ce qui nous a vraiment aidé, c'est que dans les années 90, on est devenu un groupe totalement hors cadre, hors média, et qu'une génération est arrivée qui justement n'aimait pas ce qui se passait dans les médias et a trouvé dans Indochine un groupe. Mais qui c'est ce groupe? En plus, ils ont fait l'aventurier, personne ne parle d'eux, donc ils sont accaparés, donc ça a fait une deuxième génération. Ils ont fait des enfants, ça en fait une troisième, et donc voilà. Et c'est plutôt cool pour un groupe des années 80 d'avoir 4-5 générations, alors que je parle plutôt des conflits familiaux, des conflits sociaux, et qu'ils soient tous ensemble pour nous écouter, c'est cool.
Dans la rue, des tenues charmantes, maquillées comme mon fiancé, garçon-fille, l'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée, cheveux longs, cheveux blonds colorés, toutes nues dans une boîte en fer. Mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux blonds et ce garçon qui pourrait dire non. Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin, un garçon au féminin. Et eux ne valaient rien. Et eux ne valaient rien. Et on n'en a plus besoin. Et on n'en a plus besoin. Des visages dans des cheveux d'or qui leur vertu, mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, isolés dans un corps presqu'île? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, excitant toutes les petites filles? J'ai pas envie de l'avoir nue. J'ai pas envie
Et j'aime cette fille aux cheveux blonds et ce garçon qui pourrait dire non.
Ce deuxième volume de ces disques d'anniversaire, il faut qu'on reprenne une vieille chanson de nous ou une chanson, voilà, quelle était celle qui passe totalement par le texte à travers toutes les générations et qui est toujours d'actualité. C'était Troisième Sexe, donc j'appelle Christine et j'étais sidéré de savoir qu'elle, pour elle, c'était un morceau. Moi, je pensais qu'elle était très fan de hip-hop et puis on a beaucoup parlé, c'est une fan de danse, c'est une danseuse et ça, c'est une fille que j'admire beaucoup. Moi, je l'admirais beaucoup de par sa musique, je ne l'avais jamais rencontrée. Mais c'était une expérience temporelle de 3-4 mois, mais assez intense.
Sans contrefaçon, maquillée comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
Hey, si demain les bourgeois de Bourges te montrent du doigt parce que t'as les cheveux comme ça, ou parce que tu t'habilles comme ça, dis-leur que ce sont des pervers. Voici le Troisième Sexe.
Troisième Sexe, c'était dans le contexte où j'étais à Londres à ce moment-là, où il y avait une sorte de libération vraiment du côté androgyne des garçons, et surtout une tolérance incroyable. Et j'imaginais au fond de la Creuse, des gens habillés, maquillés, tout ça, ça n'aurait pas été pareil. Donc cette tolérance-là, je trouvais que voilà, j'ai fait tout un truc autour de ça. Moi, de toute façon, mes icônes vraiment musicales ont été Bowie et Patti Smith, qui étaient deux personnes les plus androgynes, les plus fortes dans le rock en général. Et pourquoi j'ai eu cette attirance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui m'avait intéressé.
Et on se prend la main. J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.
Formation de cette chanson College Boy, et on se souvient tous du CSA. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu ce clip qui avait été censuré.
C'est ça, ce clip est là et restera là. Et a amélioré beaucoup les relations sur certaines personnes et a démontré sur le harcèlement. Là, je participe beaucoup à ça en ce moment.
Oui, contre le harcèlement scolaire notamment. Hein.
Alors, des fois, certains profs sont gênés. De montrer le truc, mais ça...
De montrer le clip ?
Oui, encore, ouais. Mais ça a servi. Voilà, ça sert encore.
Vous, quand vous écrivez aussi pour que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre.
Alors, j'écris pas pour, j'écris pour moi d'abord, mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, quand je dis que Marguerite Duras, elle a écrit des choses que j'avais envie de lire. Aujourd'hui, c'est des lettres et des messages sur les réseaux sociaux où on me dit ce que tu dis, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Donc la boucle se boucle. Alors je suis très honoré et très fier de ça. Je me mets pas du tout au même niveau que Salinger ou Duras, bien entendu. Mais voilà, ce que j'ai écrit apparemment ou ce que j'écris parle à des gens qui ont certainement eu, comme moi,
touché par vos textes.
C'est ça, la même sensation que ce que j'ai eu quand je lisais Duras.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un. Mais ce n'est pas pour être connu. Ça vient de surcroît. Pour moi, vivre, c'est ça. C'est écrire.
Indochine, l'aventure qui n'en finira pas. Un documentaire produit et réalisé par Sébastien Guidis et Julien Tarot. Bravo messieurs, c'était magnifique. Merci à Nicolas Sirkis, Émilie Sandlac et le groupe Indochine, les équipes du service des archives d'Europe 1, Benoît Valentin, Elena Noguera, Marc Toesca, Jean-Pierre Cornil, Laurent Nuitens, Stéphane Bosque et Xavier Joly. Restez bien sur Europe 1. Après les infos de Sophie Tussaud, la soirée spéciale Indochine continue avec un live et une interview de Nicolas Sirkis.
Émilie Mazoyer sur Europe 1.
Et c'est la deuxième partie de cette dernière de Musique, une émission spéciale consacrée au plus grand groupe de rock de France, Indochine, qui fête cette année ses 40 ans. Vous avez vécu entre 20h et 21h, j'espère, de jolis moments. J'ai vu sur les réseaux sociaux que des frissons sont arrivés, ça tombe bien, c'était le but du jeu, hein, en ressortant évidemment ces très belles archives. Le documentaire sonore de Sébastien Guidis et Julien Tarot, Indochine, l'aventure qui n'en finira pas, sera disponible évidemment en replay dès demain, il me semble, sur europe1.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Là, pour cette deuxième partie d'émission, on vous a prévu une petite interview tout à l'heure à 21h30 avec Nicolas Sirkis, qui vient donner de ses bonnes nouvelles, un Do 40, un Do 41, peu importe, on fera la fête. Et puis là, je vous propose un concert très spécial avec un quatuor à cordes enregistré au studio Belmar, ici, dans la grande maison Europe 1 Virgin RFM. Indochine en concert.
20h, 22h, musique sur Europe 1.
Nos célébrations. Et là, j'ai demandé à la Lune. On célèbre bien hein, ce Indo 40 ce soir sur Europe 1. Merci pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Il est 21h15 sur Europe 1 et notre concert continue.
Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on se disait quelquefois que c'était juste une à te dire, et pas grand chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. Ça. J'arrive pas très fier de moi. Je prie pour que tu sois là. Comme si la vie n'avait pas changé. Comme celle que tu es, comme celle que tu es.
Après Memoria, encore un titre avec le Quatuor à cordes et puis ensuite une petite interview de Nicolas Sirkis et la suite du concert, c'est ce que je vous propose si vous restez sur Europe 1 jusqu'à 22h. Musique spéciale Indochine.
Plus sans moi, tu prends
Indochine accompagné par un quatuor à cordes. Première partie du concert. Dans une petite minute, l'interview avec Nicolas Sirkis. Et puis, la deuxième partie du concert. On est bien sur Europe 1 jusqu'à 22h. C'est musique. Europe 1.
20h, 22h. Émilie Mazoyer sur Europe 1.
Et comme promis, il nous rejoint pour la fin de cette belle soirée spéciale Indochine sur Europe 1. Nicolas Sirkis, bienvenue.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Merci d'être avec nous. Je suis super contente que vous soyez là et à la fois, je me dis, dans un monde idéal, vous seriez entre deux stades là.
Oui, dans un monde idéal, nous serions ouais. à la même date, absolument, absolument. Après, ça change totalement nos plans, puisque nous, on devrait être sur scène là. Et après, on devait partir enregistrer un album ou écrire un album. Donc, on va inverser le dossier.
Mais dossier on a toujours... album en 2021.
Enfin, écriture. Ouais. Et on a toujours l'œil sur le... comme je te dis à chaque fois, un œil sur la guitare et un autre sur la bagarre. Donc, on a toujours l'œil sur tout ce qui se prépare, sur ces centraltos, parce que c'est quand même une grosse machine de guerre, avec beaucoup de matériel, qu'il faut maintenant donc trouver des lieux de stockage, des machins, etc. Donc, c'est... Ouais, c'est chaud quand même, hein. Mais ça voilà.
C'est pas simple.
Ça se gère.
Après, il y a quand même tout ce côté ultra réussi de ces célébrations. Oui, bien sûr, les stades sont décalés d'un an, mais tout le reste, que ce soit les compilations, les singles collections qui ont marché incroyablement, la chanson inédite, nos célébrations, qui était la chanson francophone la plus jouée en radio sur toute l'année 2020. Enfin, il y a quand même
c'était
très beau moment.
Ouais, il y a eu des moments incroyables. On pensait pas du tout non plus que ça allait provoquer ça, que nos célébrations allaient cartonner, que Trois Sexes aussi allaient cartonner.
Ouais, enfin,
le duo avec Christine. Ah non, on ne se plaint pas. Ouais. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Il y a beaucoup plus grave que nous. Alors effectivement, ça aurait pu être magnifique, mais bon, tous les artistes sont dans ce cas-là. Ouais. Tous les mariages qui s'annulent. Tournons pas que sur notre nombril.
Ouais.
Et puis voilà, essayons d'être plus constructifs que ça.
Exactement. Alors... En écoutant tout à l'heure le tout sonore et en repensant à cet anniversaire, 40 ans, il y a un livre qui va sortir le 30 septembre, il y a l'anniversaire du concert du Rose Bonbon, le 29 septembre, avec d'énormes points d'interrogation, mais les fans ont bien compris avec vos petits indices qu'il valait mieux réserver ces journées-là. Hein, pour un
dos. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça.
Mais je vois dans vos yeux que vous voulez pas m'en dire plus, mais c'est pas
non,
grave.
Non, je peux pas vous en dire plus. Malheureusement,
mais
on est au mois de juin et tout évolue et on essaye. En tout cas, voilà, ça serait impossible de pas faire quelque chose ce 29 septembre, 40 ans après. Voilà. Et même si on sait pas, ça sera pas, bien entendu, un concert de stade. Bien entendu, ça sera quelque chose d'autre. Donc on y travaille, effectivement.
À suivre, vous l'avez compris. Mais en ce qui concerne le retour en arrière, moi, rien qu'en écoutant le tout sonore et en le préparant avec les équipes d'Europe 1, il y a des moments hyper heureux, il y a des moments pleins d'espoir, il y a des moments difficiles. Pour vous, ça a été quoi comme sentiment de remonter comme ça le fil de 40 ans, de repenser au Rose Bonbon, de repenser à ses albums, au début, au milieu. Il y a des moments très durs, évidemment, notamment la mort de votre frère. Il y a des moments tellement heureux, comme d'être le premier groupe de rock français sur scène au Stade de France. Ça vous a remué, ça vous a fait quoi, Nicolas ?
Alors, c'est en fait, comme on a remué tout ça, effectivement, remué, c'est peut-être pas, mais j'ai ouvert mes archives personnelles pour le livre et pour le film qui est en train de se préparer. Effectivement, je me suis replongé, et puis j'ai pas mal écrit aussi autour de ça. Donc, effectivement, tout ce qui était avant la mort de mon frère, c'était super pénible. Mais c'est normal aussi. C'est-à-dire que je revoyais le passé, et revoir le passé, moi qui suis toujours tourné vers le futur, c'était compliqué, c'est un peu schizophrénique. Ouais. C'est-à-dire que je me disais, c'est vraiment bien de le faire ça, je découvrais des trucs que je n'avais pas ouverts depuis longtemps. Je ne savais pas que j'avais gardé autant de choses. Mais après, c'était un côté, waouh, j'aime pas trop la nostalgie. Donc il y avait un côté un petit peu, pas triste, mais pas violent, mais entre les deux. Mais après, oui, il y a eu tellement de moments aussi incroyables. Et c'est vrai que depuis 20 ans, on vit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas d'être beau, d'être fort. Ne serait-ce que les concerts, ne serait-ce que les rencontres avec Oli ou avec les albums, les chansons qu'on écrit, etc. Donc voilà, le fait d'avoir voulu continuer le groupe, ça me rassure dans le fait d'avoir voulu continuer coûte que coûte ça, pour la mémoire de mon frère, pour la mémoire des autres aussi. Comme Dimitri est toujours mon meilleur ami, on se partage quand même des moments assez incroyables là-dessus.
Ben oui, oui, oui. Ça doit être extrêmement émouvant aussi au moment où vous avez fabriqué les nouvelles versions qui sont pas vraiment des, enfin qui sont des, de nouveaux mix, mais pas des remixes dans le sens où on l'entend. Voilà, de singles collection. Là aussi, voilà, peut-être réécouter des chansons que vous réécoutez pas, faire
alors
ces choses-là.
Ça c'est le problème. On a l'œil technique, c'est-à-dire qu'on écoute mais d'une oreille technique. Donc on dit voilà ce qu'il faut faire. Ça, on essaie de
technique. Ça veut dire que c'est pas très bienveillant forcément. Vous n'êtes pas attendri, par exemple, par votre voix d'il y a 30 ans?
Non, moi, je suis plutôt très dur avec moi-même. Hein. Donc, j'ai dit, merde, pourquoi j'ai écrit ce truc-là? Pourquoi j'aurais mieux fait? Là, maintenant, c'est mieux, je chante mieux quand même, etc. Non, moi, je suis super violent avec moi. Je suis dans le doute permanent. Donc, c'était très technique. Je ne voulais pas que les premiers morceaux d'Indochine des années 80 n'aient pas la même puissance comme ils ont sur scène aujourd'hui avec les morceaux des années 2000 ou 90. Donc, il fallait aligner la concordance des sons, la dynamique, etc. Effectivement, la tendresse que j'ai, moi, c'est l'émotion qu'ils dégagent, c'est quand je suis sur scène. Quand je suis sur scène et que on chante des morceaux où je vois des gens qui étaient pas nés quand on les avait faits et qui les connaissent par cœur, ou d'autres, ou que je vois des gens... Ça m'a fait le même effet quand j'avais été voir, sans me comparer à ça, où j'avais été voir Paul McCartney il y a une vingtaine d'années, et j'étais entouré de personnes de 60 ans, 70 ans, moi j'en avais 40, et je voyais ces personnes pleurer parce qu'elles entendaient « Can't Buy My Love », etc., tous ces trucs. Et waouh, et quand je vois effectivement que ce soit toutes ces générations devant nous... Qui écoutent Memoria et qui pleurent, que ça soit des gens de 15 ans ou de 30 ans ou de 60 ans, ça me... Là l'émotion, elle apparaît. J'ai besoin d'avoir cette énergie-là autour, qui est un peu impalpable, hein, du public. Mais sur le contenu physique, non. Je reste froid et glacial comme un tank.
Vous êtes un bourreau de travail, Nicolas Sirkis.
Non, faut pas déconner. C'est un métier de paresseux. Non, franchement. Ah,
non, sérieusement. Entre... Non,
on a un cerveau qui est en ébullition 24 sur 24, mais
voilà,
c'est pas du travail.
Ça s'arrête pas, vous coupez pas.
Non, je coupe pas. Enfin, je coupe pas. Si, je coupe un peu quand même, quand je dors.
Ouais, pas beaucoup.
Si, je coupe un peu. Non, mais après, c'est ma vie. C'est sûr que Indochine, ça a toujours été ma vie. Donc, en fait, c'est pas facile de vivre avec moi, mais... C'est une telle passion, c'est pas un métier. Hein. Donc, moi, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour off, même si c'est pour ça que je dis que c'est un métier de paresseux, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une idée quand on veut, où on veut, si on veut.
Oui. Oui, tout le monde a. Oui, c'est vrai. Tout le monde a pas ce choix-là.
J'ai une chance incroyable. Je ne vais pas au travail le matin et comme j'allais à l'école avec la tristesse d'attendre la fin de journée, quoi.
Oui. Oui, mais il y a aussi quand même une dimension. Vous l'avez dit. C'est votre vie. Ça veut dire que le groupe a 40 ans. Donc ça fait 40 ans que vous vous consacrez à ce groupe. Est-ce que, en vous retournant, en regardant ces 40 ans, vous vous dites ouais, bah ça valait le coup. Ça valait le coup de pas avoir de week-end, de pas avoir de vacances. Ça valait le coup aussi parfois d'avoir des attaques super dures de la presse par exemple, d'avoir des jalousies dans le métier aussi, forcément quand on a autant de succès ça en énerve certains. Vous n'êtes pas j'imagine imperméable à tout ça, donc est-ce que ça valait le coup?
Eh ben oui. La preuve, aujourd'hui, oui, ça valait le coup. Bien sûr, ça valait le coup. Moi quand Dominique est parti au décès de mon frère, c'était cher payé, plus toute la presse, plus même les maisons de disques qui nous jetaient comme des serpillères, etc. C'était violent. Mais moi, j'ai toujours cru. Et puis j'aime bien avoir des regrets et des remords. Je trouve que ça facilite l'énergie d'aller encore plus loin. Donc, ça valait le coup. Et surtout, j'ai voulu marquer ces 40 ans d'une façon... comme ça, c'est-à-dire là, vraiment, 40 ans pour un groupe de rock, c'est pas tous les jours, il y en a pas beaucoup. Et puis avec le succès qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas un groupe de rock nostalgique, hein, c'est pas... donc voilà.
Oui, c'est ça, c'est que vous ne jouez pas les chansons d'il y a 5 minutes.
Non,
vous jouez des chansons anciennes et vous jouez des chansons d'il y a 5 minutes.
Ce qui est fou, c'est que les single collection, le premier volume 2001-2021, c'est celui qui a presque plus marché, quoi. Donc
c'est les chansons les plus récentes.
Donc avec les chansons les plus récentes, donc moi ça il y avait jamais eu de best-of à ce niveau-là. Et puis nos célébrations, et puis enfin. Non, c'est un... Je sais pas, seul Dieu reconnaîtra les siens, mais nous, on est bénis de ces dieux-là, en tout cas, c'est sûr.
Ah, et puis, il y a votre public qui vous suit et qui se renouvelle. Il y a chaque fois, au premier rang, des concerts d'Indochine,
Qui dure, enfin, il y a une fidélité,
Il y a une fidélité, il y a les nouveaux qui arrivent et tout le monde se mélange, et ça, c'est très rare.
Là, en ce moment, avec Trois Sexes, c'est marrant, je reçois énormément de courriers de gamins de 15 ans, 10 ans, en disant qu'il chante cette chanson comme J'ai demandé à la lune. Ouais. Alors que c'est un vieux tube, hein, Trois sexes. Mais avec Christine, ça l'a fait renouveler, je sais pas. Donc cette chanson, il la connaissait pas, il la découvre. Donc c'est magique, comme on dit.
Bah oui.
Magic System, c'est ça.
C'est ça. En fait, voilà la formule magique. Ouais. Magic System.
Non, mais on a un bol incroyable. Alors effectivement, c'est travaillé, mais moi je trouve pas que ça soit du travail. C'est juste une gestion de son truc, quoi.
Ouais, alors justement, c'est intéressant ce mot gestion, parce qu'il y a tout le côté artistique, mais je le disais tout à l'heure, et j'insiste,
j'ai l'impression.
Vous bossez beaucoup, vous êtes un bourreau de travail, donc il y a aussi tout le côté boss, patron, qui a un œil sur tout, sur le prix des places de concert, je crois qu'il n'y a pas un t-shirt Indochine qui sort d'une usine sans que vous l'ayez validé. Enfin, je veux dire, vous, voilà, c'est quand même un truc assez énorme.
C'est une œuvre entre guillemets d'art, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la musique aujourd'hui, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi le merchandising, il y a aussi les pochettes de disques, les clips. Ouais. Ça engendre tout un côté artistique qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que ça touche à tout, à l'architecture, quand on fait des dessins de scène, à plein de choses qui, moi, m'ont passionné, à la photo, à plein de trucs. Après, moi, je trouve que ce public m'a donné, me donne et me donnera, ou j'espère, le pouvoir, effectivement, de les faire respecter. Parce que c'est quand même un métier où... c'est pas un métier, mais c'est une industrie. Et cette industrie, parfois, considère le client comme un client, justement. Et donc, il faut l'arnaquer un peu. Et ça, moi, j'ai toujours eu du mal. Moi, j'ai jamais été porté par l'argent ou ça n'a jamais été mon objectif. Quand quelque chose marche, je dis, putain, je suis content pour la musique. Je suis pas... je vais avoir plein de thunes. J'ai jamais été dans cette optique-là.
Oui, ou quand un stade est plein, vous vous dites pas, le prochain, je le vendrai deux fois plus cher.
Non, parce qu'on... Non, surtout pas. Surtout pas. Parce qu'on sait... c'est toute la problématique de ça. Donc oui, je pense que c'est un respect vis-à-vis du public et de moi-même, enfin, et du groupe aussi, de pouvoir effectivement dormir sereinement et pas dire putain j'ai arnaqué des gens ou des choses comme ça. Ça, moi, j'aime pas. Enfin, je dis pas que d'autres artistes arnaquent ça, les gens, mais c'est un respect vis-à-vis de ce public-là. C'est pour ça que nous tous les côtés. Early entrants, Golden Pelouse, machin, etc. Non, ça, j'ai pas
j'apprécie. Golden Pelouse.
Oui, Golden Pelouse.
Titre.
Non, Golden Pelouse, c'est pas mal. On dirait un film porno, Golden Pelouse. Non, comment
Ça
s'appelle
trucs-là.
Golden Pelouse,
bah, il y a Cercle d'or.
Cercle d'or, pas mal.
C'est pas terrible non plus. Bon, bon anniversaire.
Merci
qui va durer,
beaucoup.
Du coup, c'est bien, en
et
fait, cette
voilà,
histoire.
Ça va durer sur un an et demi, deux ans de célébration, un petit peu comme les empereurs, tu sais, qui n'arrêtent pas de faire ces vrais. Et en fait, oui, on va fêter nos 41 ans. Donc, et les chiffres impairs ont toujours porté chance à Indochine. Que ça soit le 3,
13.
Ou que ça soit le 13. Donc, 41 ans, c'est impair. Espérons que... Que vous ressortirez pas dans ma nécro.
Mais quelle horreur ! Jamais de la vie. Jamais de la vie. Maintenant, vous nous enterrez tous. Nicolas, merci beaucoup.
Merci à vous. À très bientôt.
Bon anniversaire.
Non, c'est à moi. Oui.
Bonne journée. joyeux anniversaire, évidemment, à Indochine, qu'on adore. 21h42 sur Europe 1. On termine la soirée jusqu'à 22h avec la suite du concert d'Indochine, accompagné par un quatuor à cordes. C'est beau comme tout. D'ailleurs, Nicolas va vous présenter les musiciennes. Ça a été enregistré ici, au studio Belmar.
Dans la rue, t'étais le charmant, maquillé comme mon fiancé. Garçon, fille, l'air stupéfiant, habillé comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blancs colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier. L'outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de l'avoir nu. J'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs. Et ce garçon qui pourrait dire non.
chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. Et j'aime cette fille aux cheveux longs, ce garçon qui pourrait dire non. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu.
Musique sur Europe 1.
Partira au milieu de l'eau.
J'aimerais bien que tu me crois, qu'aussi loin que tu verras un chemin vers moi, tu nous retrouveras. Oh. Hey. Cours.
Merveilleuses jeunes femmes nous ont accompagnées depuis 2 jours et ça a été vraiment un plaisir de répéter avec elles. Alors ici nous avons Julie. Merci. Là nous avons Pauline. Elsa. Et Miwa. Bravo à vous. Ça a été un réel plaisir de travailler avec elles. C'était un... Voilà, c'était super. Là on continue.
Yeah.
des nuits sur un toit à regarder les orages et en courant les dangers des éclairs sur ton visage et des étoiles près de toi.
Que cet été soit français et pas anglais. Mais vous en faites pas, ça va se passer, ça va se passer.
Merci.
À très bientôt, hein.
Merci Indochine pour cette soirée absolument incroyable, le documentaire de Sébastien Guidis et Julien Tarot, Indochine, l'aventure qui n'en finira pas, qui sera disponible en podcast tout bientôt. Et puis le Central Tour qui va avoir lieu l'année prochaine, tournée des stades pour Indochine. Sophia et moi, on a un dernier message pour Indochine. Joyeux anniversaire!